l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebey.
Bonjour à tous, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Vous avez la parole jusqu'à 9h temps universel sur RFI avec dans une demi-heure notre débat sur la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Le président français veut que les demandes d'asile soient étudiées en amont dans les pays d'origine ou de transit puisqu'Emmanuel Macron a cité le Niger, le Tchad et même la Libye pour éviter, selon le chef de l'État, que les migrants ne prennent des risques inconsidérés. Donnez-nous votre avis sur cette politique au 33 9 693 693. 70, vous êtes pour, vous êtes contre ou bien sur notre page Facebook. Mais avant notre débat, place à vos questions sur l'actualité. Nos journalistes sont là pour vous répondre. Aujourd'hui, on va parler de la lutte contre les Chebabs en Somalie, de Neymar et de gros sous au PSG, mais d'abord d'un chef de guerre congolais. Et ça, c'est avec Bienvenue qui nous appelle de Porto Novo. Bonjour, Bienvenue.
Bonjour Marie Cazadebey, bienvenue vraiment à Porto Novo, hein, la capitale du Bénin où à l'heure où je vous parle même, le Bénin est en train de fêter sa souveraineté, son accession à la souveraineté internationale, c'est-à-dire l'indépendance.
Bienvenue, vous aviez des questions sur Cheka, si je me trompe pas. C'est bien ça?
Bien sûr, mais je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui et je salue. Pas le passage à Juan Gomez, en congé peut-être.
Voilà, on lui passera le message et peut-être même qu'il nous écoute. Cheka, on vous écoute à propos donc... pardon, bienvenue, on vous écoute à propos de Cheka. Voilà, je mets tous les mots dans le bon ordre.
Oui, le chef de guerre Cheka s'est rendu la semaine dernière du moins à la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Il était, il faut le dire, accusé par les organisations de défense des droits de l'homme de campagnes massives de viol et d'exécutions, hein. Des dizaines de civils congolais. Eh bien, vous savez, quand on a cette information, tout de suite, il y a trois questions qui tapent à la tête. La première, c'est quelles sont les raisons qui ont poussé cet homme, ces cas, bien sûr, à se rendre, puisqu'il est sous mandat d'arrêt international depuis 2011. Mmh. Eh bien, la deuxième, avec cette reddition, est-ce que on assiste déjà à la fin du groupe armé, le MDC de Cheka.
Bienvenue, c'est Sonia Rollet qui va répondre déjà à ces deux premières questions. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Et pour revenir peut-être à la base, revenir sur qui est Cheka, cette personnalité dont Bienvenue vient de nous parler.
Alors Cheka, on le voit paraître en fait en 2009, quand le Douma Defense of Congo, son mouvement commence à agir en fait dans le territoire de Walikale. Il est originaire de la communauté des Nyanga. Donc c'est une communauté du territoire de Walikale qui s'estime lésée en fait, notamment par rapport aux ressources minières et autres. Et donc, comme beaucoup de groupes Mai Mai, puisque c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire un groupe d'autodéfense qui devient un groupe armé, eh ben on se retrouve avec ce chef Cheka qui finit par avoir une voix finalement et par commettre des exactions.
Au départ, finalement, son groupe armé était censé protéger les Nyanga. Finalement, il va commettre des crimes. Bienvenue les a évoqués. Qu'est-ce qu'on lui reproche?
Alors, on lui reproche à peu près tout, hein, depuis le cannibalisme, le fait d'avoir décapité un certain nombre de personnes, mais le crime pour lequel il est jugé, enfin il est censé être jugé, c'est un crime qui s'est passé en 2010, à peu près jour pour jour, hein, puisqu'on est exactement dans ces dates-là, et où, sur 13 localités du territoire de Walikale, sur un axe, pas tout seul d'ailleurs, hein, puisqu'il était avec un autre chef de guerre, Lyonceau, qui appartient au FDLR, les rebelles hutus rwandais, ils ont violé 387 personnes, en quelques jours, en l'espace de 3-4 jours, l'essentiel des femmes, mais aussi des hommes, des jeunes filles, des petits garçons, et tout ça sur 13 localités. Donc ça a vraiment été une campagne de viol comme on en avait rarement vu dans l'est du Congo, en tout cas avec cette ampleur.
Et quel était leur objectif à travers cette campagne de viol?
En général, ce genre de campagne de viol ou les exactions commises par ces groupes armés sont faits pour dégager des populations. D'un territoire qui en fait est un territoire sur lequel on sait que dans le territoire de Walikale il y a des ressources minières et donc c'est pour prendre le contrôle en fait du territoire et obliger les populations à ne plus jamais revenir, donc créer des déplacements.
Alors on l'a dit, donc il y a un mandat d'arrêt contre lui, des sanctions aussi qui avaient été votées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi finalement se rendre 5 ans après l'émission de ce mandat d'arrêt?
Alors en fait, Tcheka, d'abord, après ce mandat d'arrêt en 2011, a été poussé par l'ONU. C'est l'ONU qui avait demandé à la justice militaire ou accompagné la justice militaire dans cette enquête qui a été extrêmement documentée. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'en fait, Tcheka est resté quand même un leader de groupe armé. Donc, c'est pas non plus la chose la plus simple de désarmer un homme en armes. Il avait aussi des soutiens, nécessairement. Et donc, il s'est même présenté, en fait, aux élections législatives en 2011. Et il soutenait à l'époque Joseph Kabila, le président, le chef de l'État. Il a même écrit des lettres au chef de l'État, etc. On sait que les autorités et la MONUSCO ont au moins rencontré trois fois Tcheka. Mais jusqu'à ce qu'il tombe, que finalement il n'ait plus ses ressources ou ses hommes, finalement il ne pensait pas du tout à se rendre.
Alors on l'a dit, donc il était à la tête du NDC ou NDC Tcheka. Et bienvenue, notre auditeur de Porto Novo se demandait si avec cette reddition on assistait à la fin de son groupe armé.
Alors non, évidemment, hein, Tcheka a perdu plus ou moins son groupe armé en juillet 2014, donc ça date déjà un peu cette perte de contrôle de son groupe. Il a été écarté en fait par ses compagnons, et c'est notamment son adjoint Guidon qui a repris la tête du mouvement. Donc il est petit à petit en fait sur cette période entre 2014 jusqu'à aujourd'hui, non seulement il a commencé à perdre ses hommes, puis ses escortes, puis il a été la cible d'attaques de Guidon, notamment son rival. Il y a même eu une tentative d'assassinat l'an dernier. Donc lui, c'est lui qui a perdu en fait. Mmh. C'est pas le groupe armé. Le groupe armé existe encore.
Donc le groupe armé existe encore avec sa tête Guidon qui a également instrumentalisé des milices sur place. Est-ce que c'est finalement cet isolement, ce manque de soutien qui explique aujourd'hui la reddition de Tcheka?
Oui, d'une certaine manière, parce qu'en fait, un leader de groupe armé ne tient que quand il a un groupe, quand il a des armes, quand il a accès aux armes et quand il a accès à un territoire et aux ressources qu'il contient. Donc, en fait, évidemment, c'est des ressources minières, c'est ça qu'il cherche les trois quarts du temps, au-delà des revendications en termes de protection de la population et autres. Et donc, sur ce cas présent, Tcheka était toujours dans le territoire de Walikale, donc dans son fief, mais son adjoint, Guidon, avait non seulement le territoire de Walikale, mais aussi le sud du Bérou, et il avait accès aux armes et finalement aux ressources. Et c'est vrai que ce chef-là, Tcheka, s'est retrouvé isolé. Alors au départ, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup à raconter. On sait qu'il est soupçonné d'avoir été soutenu par à peu près tout le monde, le Rwanda, le Congo, le M23, tout le monde aurait instrumentalisé Tcheka. Et donc, c'est vrai que après ces tentatives d'assassinat, une fois que ses derniers hommes sont partis, il s'est retrouvé seul avec sa famille et toujours sous la menace de son adjoint, Guidon.
Bienvenue à Porto Novo, vous êtes toujours en ligne avec nous?
Bien sûr, et j'aimerais bien demander à Sonia à entendre toutes ces explications. Comment expliquer que les hommes de la MONUSCO ne l'ont toujours pas remis aux autorités congolaises? Et cela prendra combien de temps?
Sonia Rollet.
Alors justement, donc c'est toute cette question-là de procès, puisque c'est ce qu'on attend avec Tcheka. Et donc ce procès-là, il faut d'abord s'assurer que Tcheka soit en bonne santé. Donc c'est ce qui a été fait au départ, puisqu'il a toujours une balle dans le corps. Ensuite, de savoir un peu les conditions dans lesquelles il va être repris par les autorités, les mesures de protection. Justement parce qu'il aurait beaucoup à dire et peut-être à accuser certaines personnes. On sait que son chef d'état-major, notamment, était mort en prison. Enfin bon, il y a quand même un risque qu'il y ait des mesures de vengeance et autres vis-à-vis de ce personnage et pour lequel la communauté internationale tient quand même à ce qu'il soit véritablement jugé.
Donc on essaie de le protéger finalement pour obtenir aussi des informations et justice.
Voilà, exactement. On essaie d'organiser un procès dans les conditions possibles et tout cela doit se voir avec la justice congolaise, mais de ce point de vue, il y a souvent des bonnes relations entre la justice congolaise et la MONUSCO.
Merci beaucoup Sonia Rollet de nous avoir rejoint en studio pour répondre aux questions de Bienvenue, notre auditeur de Porto Novo au Bénin. Une réponse d'ailleurs, vous pourrez très vite retrouver en vidéo sur la page Facebook de l'émission Appel sur l'actualité. Il est 8h19 en temps universel, l'heure de passer à un nouveau sujet avec Christian qui nous appelle de Lubumbashi en RDC. Bonjour Christian.
Bonjour Marie.
Christian, vous aviez des questions sur la lutte contre les chebabs en Somalie.
Oui, le gouvernement somalien a pris la décision de considérer comme un crime grave tout soutien aux chebabs. Les commerçants et les entreprises sont notamment visés par cette mesure. Le gouvernement a le moyen de mettre en place cette nouvelle mesure et quelle est sa stratégie pour justement la mettre en œuvre? Pourquoi cette mesure ne fait pas l'unanimité auprès de l'opinion somalienne?
Merci beaucoup Christian pour ces deux premières questions donc sur la lutte contre les chebabs en Somalie. C'est Fabrice Vimot qui nous a rejoint en studio pour vos réponses. Bonjour Fabrice.
Bonjour Marie, bonjour Christian.
Alors est-ce que le gouvernement somalien a les moyens de mettre en place donc cette nouvelle mesure, il disait, hein, des sanctions contre les commerçants et les entreprises qui soutiendraient les chebabs somaliens?
Oui, alors on peut avoir des doutes sur la capacité des autorités à mettre en place un tel dispositif. Il faut savoir que les autorités somaliennes peinent déjà énormément à garder le contrôle du pays. Les forces gouvernementales et celles de la MISOM, qui est la force de l'Union africaine, ne maîtrisent véritablement que les régions du centre et du sud de la Somalie. Et même ces zones sont en proie à des attaques régulières. Donc, on l'a vu le week-end dernier déjà, deux attaques importantes à la voiture piégée. Et alors, les forces de l'Union africaine et celles du gouvernement ont consolidé leur contrôle par l'intermédiaire des administrations fédérales dans les États, par exemple, de Galmudug et du Sud-Ouest, à Jubaland, par exemple. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on parle quand même de l'un des pays les plus corrompus, d'un système gangréné par la corruption. Je rappelle juste que la Somalie est considérée depuis quelques années comme le pays le plus corrompu au monde si on se fie au classement de Transparency International. Donc, cette décision de sanctionner les échanges entre les chebabs, les échanges avec les chebabs, part d'une bonne intention, mais concrètement, sur le terrain, on a du mal à imaginer que ça devienne réalité.
Et surtout que de leur côté, les chebabs sont extrêmement bien implantés et ils nuisent au fonctionnement de l'État.
Exactement. Et même s'ils ont été chassés à Mogadiscio et de leurs principaux bastions du centre et du sud, ils contrôlent toujours de larges zones rurales du pays, d'où ils mènent des actions terroristes et surtout où ils prélèvent des taxes à la population, parfois jusqu'à des sommes assez élevées. En contrepartie, bien sûr, de leur protection, les chebabs prélèvent donc cette taxe, surtout dans des zones qu'ils peuvent contrôler. Selon un rapport publié par l'ONU, les revenus du groupe était estimé entre 70 et 100 millions de dollars US en 2011, essentiellement des taxes portuaires et des taxes prélevées auprès de la population et des commerçants en l'occurrence. Au total, les chebabs capteraient énormément d'argent, non seulement de ces taxes, mais aussi du trafic du charbon de bois, qui est l'une des forces du pays et qui est malheureusement sous la coupole des chebabs. Donc c'est important pour les islamistes de garder cette mainmise sur la population et sur les commerçants, sur les entrepreneurs du pays qui gardent cette activité et sont parfois obligés de payer ces taxes.
Et Christian le disait, cette mesure de sanctionner donc des commerçants, des entreprises qui feraient commerce avec les chebabs ne fait pas l'unanimité. Pour quelle raison ?
Alors, c'est clair, dans un pays comme celui-là qui est marqué par le conflit, le commerce est souvent la seule activité pour pouvoir survivre. L'opinion somalienne reproche au gouvernement de ne pas être en mesure de protéger les commerçants et de l'autre côté de leur imposer ce dilemme fatal parce que il faut être clair, refuser de payer des taxes aux chebabs, c'est clairement mettre sa vie en danger. Donc finalement, les commerçants sont pris en étau entre les islamistes et le gouvernement qui prélève également des impôts importants. Donc c'est pourquoi la grogne commence à se faire entendre parmi les commerçants et les hommes d'affaires. Maintenant, reste à savoir si ils sont en mesure de quitter complètement leurs activités, parce qu'on a vu pendant quelques années des commerçants qui détournaient leurs activités hors de Mogadiscio pour pouvoir survivre en fuyant clairement le gouvernement à la place des islamistes en faisant le poids. Certains considèrent qu'il vaut mieux payer des taxes raisonnables aux islamistes et rester protégés.
Est-ce qu'il y a des entreprises justement accusées d'être de connivence avec le groupe terroriste qui ont réagi à cette mesure?
Alors on n'a pas eu de réaction jusqu'ici, mais on peut penser que les entreprises sont surtout soit celles qui profitent quelque part du système et de la situation actuelle de la Somalie. Par exemple, les entreprises de transfert d'argent qu'on appelle les hawalas en Somalie. Ces entreprises qui, grâce au transfert des fonds de la Somalie et grâce au transfert des fonds surtout des islamistes chebabs, réussissent à capter aussi du revenu. Donc essentiellement, ces entreprises-là profitent de la situation. elles ne vont pas forcément réagir positivement à ces nouvelles sanctions qui peuvent leur être destinées.
Merci beaucoup Fabrice Vimot donc pour avoir répondu aux questions de Christian, notre auditeur de Lubumbashi en RDC, donc sur cette nouvelle mesure prise par le gouvernement somalien de sanctionner les commerçants et les entreprises qui soutiendraient économiquement les Chebabs en Somalie. 10h25 à Paris, on va passer maintenant au football et au gros sous avec Nathan qui nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Nathan.
Bonjour madame.
Et des questions sur Neymar, on vous écoute.
D'accord. En effet, j'ai trois questions à propos de Neymar. Depuis plusieurs jours, on entend beaucoup parler d'un éventuel transfert de Neymar du FC Barcelone au PSG, ce qui sera le transfert le plus cher de l'histoire. À ce sujet, j'ai trois questions. Le PSG doit-il verser les 222 millions de la clause libératoire intégralement ou y a-t-il moyen de négocier avec le Barça? Que stipule exactement le fait des financiers par rapport à un transfert aussi colossal? Et enfin, le Barça peut-il actuellement revaloriser le salaire de Neymar pour l'empêcher de quitter le club?
C'est Hugo Mossonnier du service des sports qui va vous répondre, Nathan. Bonjour Hugo.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Alors, le montant du transfert, on l'a dit, il est voilà très impressionnant. Hein, 222 millions, on parle d'euros. Hein. Ce sera un record. Est-ce qu'il est possible de le faire baisser?
Alors, a priori, non, tout simplement parce que le Barça n'est pas vendeur. Alors, ce que le PSG est obligé de faire pour attirer Neymar, c'est de payer sa clause libératoire. La clause libératoire, elle sert à quoi? Bah, à libérer, justement, à libérer Neymar de son contrat. Et de cette manière, en payant cette clause libératoire, le PSG pourra négocier directement avec lui sans demander l'avis du Barça. Alors, généralement, pour les grands joueurs, cette clause, elle est élevée, de manière à dissuader les clubs qui voudraient les approcher. 222 millions, c'est pas mal, mais ça pourrait être beaucoup plus, puisque Cristiano Ronaldo, par exemple, sa clause libératoire, elle s'élève à 1 milliard d'euros. On n'en est pas encore là, mais bon, méfiance tout de même. Alors, c'est 222 millions, il faut ajouter le salaire net, qui s'élèverait à environ 30 millions d'euros par an, et aussi pourquoi pas une prime à la signature qui elle aussi sera conséquente. Ce transfert va donc coûter cher. Alors, selon les informations qui ont circulé dans différents médias, le PSG aurait songé pour pouvoir l'effectuer à un montage financier afin de payer la clause libératoire de 122 millions. Donc l'idée serait grosso modo que le Qatar verse la somme directement à Neymar pour qu'il paye lui-même sa clause libératoire auprès du Barça. C'est l'un des scénarios évoqués.
Alors Nathan évoquait lui aussi le concept de fair play financier. Il faut que vous nous expliquiez, Hugo.
Et alors justement, ce montage financier servirait un petit peu à contourner le fair play financier. C'est là le grand enjeu de ce transfert, le fair play financier. C'est une règle mise en place par l'UEFA il y a quelques saisons pour assainir la gestion des clubs, réduire leurs pertes. En gros, le principe est simple. Les clubs qui sont engagés en Coupe d'Europe ne doivent pas dépenser plus qu'ils ne gagnent. Ils ont une marge, mais elle est assez courte, 30 millions d'euros. On les encourage plutôt à des investissements responsables, notamment ce qui concerne des infrastructures qui sont rentables à long terme, le centre de formation, le stade par exemple. Une dérogation peut être demandée, mais elle ne concerne pas les clubs récemment sanctionnés par le fair play financier, et c'est le cas du PSG sanctionné en 2014 après un autre montage qui n'avait pas franchement convaincu les responsables de l'UEFA, puisque le PSG va en fait conclure un contrat avec l'autorité de tourisme du Qatar, sachant que le PSG est sous pavillon qatari, un contrat qui avait été dévalué ou considéré comme étant sur évalué par l'UEFA.
Bon, on comprend que même grâce à un montage financier très compliqué dont on connaîtra peut-être pas toutes les ficelles tout de suite, il faudra que le PSG dépense de toute façon des millions, ça c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment une bonne affaire alors de récupérer Neymar?
Alors sportivement a priori oui, puisque là on parle vraiment d'un des meilleurs joueurs du monde. Déjà il a brillé avec le Barça, membre de la fameuse MSN, Messi, Neymar, Suarez, vainqueur de la Ligue des Champions notamment en 2015. Il a annoncé comme un futur Ballon d'Or, c'est lui logiquement la relève du football mondial derrière Messi et Ronaldo, capitaine du Brésil. Il fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire de cette sélection. Et puis, le PSG est bien placé pour savoir qu'il a un mental à toute épreuve, Neymar, puisqu'il est le grand artisan de la remontada en Ligue des Champions cette année, voilà, qui avait été une humiliation terrible pour le Paris Saint-Germain.
Merci Hugo Moissonnier. De toute façon, le suspense va bientôt prendre fin, ça c'est sûr. Et dans 30 secondes, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur RFI.